La sortie d'Éternité de Tran Anung nous a donné envie de faire un point sur le cinéma français qui a occupé une grande place quand même de cette rentrée médiatique et cinéphilique. Il y a eu beaucoup de films dont on a beaucoup parlé et dont on parle depuis Cannes, que ce soit le film d'Alain Guiraudy, Divine, le film de Bonello, France de François Ozon, Victoria qui a fait la couverture de tous les magazines des Inoccupables au magazine féminin. Donc voilà, ça nous a donné envie de faire un petit, une petite digression en sortant de l'Asie sur le cinéma français, sur l'état du cinéma français. Mais on revient quand même, on part de l'Asie, puisque le cœur de tout, c'est quand même Éternité, qui est sorti début septembre. Si vous vous dépêchez, vous pouvez encore le voir dans des salles assez clairsemées. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, avec des gens qui peuvent partir. Voilà, mais qui en tout cas est, d'après Kefren, du pur Tran Anung. Alors je vais raconter une petite anecdote. Du coup, je me suis présenté comme étant le rédacteur en chef d'Istasia à quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, c'est sur ce site où il y a une critique positive d'Éternité.
» c'est calme.
Et cette critique a donc été écrite par Kefren. Et Kefren, est-ce que tu peux nous présenter ton amour éternel pour ce film de Tran Anung?
Elle a aimé Éternité.
Bon, comment dire, Tran Anung, depuis le début de sa carrière, c'est d'abord un geste esthétique. Je veux dire, Tran Anung, c'est quelqu'un qui travaille l'esthétique, un peu comme Lev Wachowski. Et justement, pour lui, comme pour Lev Wachowski ou d'autres cinéastes comme ça, l'histoire en soi, la narration telle que nous on la conçoit au cinéma ou à Hollywood, et le cinéma hollywoodien qui nous a éduqués, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'expérience esthétique et ce que porte l'esthétique qu'on propose au film, puisque les histoires sont toujours les mêmes depuis le début. Et j'ai vu une masterclass, par exemple, pas de Tran Anung, mais des Wachowski, où ils disaient justement que depuis, en fait, la nuit des temps, depuis l'Antiquité, les histoires étaient toujours les mêmes, en fait. Et par exemple, ils parlaient du film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, et justement du film Blanche-Neige, qui était sorti à l'époque la même année. Ils disaient qu'on retrouvait les mêmes situations, les mêmes histoires et les mêmes personnages, et que la seule chose qui changeait, c'était l'esthétique, justement. Et Tran Anung a un peu cette vision du cinéma que l'esthétique et l'expérience esthétique doit l'emporter sur tout. Et justement, dans Éternité, c'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye de retourner à une espèce de mouvement comme il l'en fait à la Renaissance pour se couper justement du Moyen-Âge, de proposer une expérience premièrement esthétique qui transporterait l'émotion à travers les symboles qu'il dissémine dans le film, et la mise en scène, et la lumière, etc. Et c'est un pur travail d'esthète avant tout. Et voilà pourquoi j'adorais le film.
Justin.
Donc, alors je salue quand même l'ambition du film, quand même, de ce qu'il faut rappeler, voilà, c'est les 100 ans ce que ça raconte, c'est les 100 ans d'une famille à travers les femmes de cette famille, donc ça démarre au début du siècle. Même un peu avant.
Ouais, parce qu'on est à la fin du 18e, du 19e siècle.
Voilà, et puis et ça passe en passant par la Première Guerre mondiale et un peu plus loin. Et donc, alors, chez lui, quand même, il y a une ambition de raconter, vu que l'essentiel de la narration se fait en voix off. Et donc, c'est vraiment par l'image, par la narration, par les réactions des personnages que je fais la narration. Et donc, moi, je trouve le début fonctionne vraiment, on va dire, toute la partie où on a encore Audrey Tautou qui arrive à incarner quand même cette féminité. À la fois le côté maternel, le côté épouse, le côté sensuel, il y a tout ça qui fonctionne bien. Par contre, ça se délite au fur et à mesure. Donc,
la deuxième génération, donc.
Oui, c'est ça. Bah, déjà, la première partie, on a une grande actrice, on a Audrey Tautou, après on a Mélanie Laurent.
D'accord. C'est tout dire.
Voilà, donc bon, déjà, ça, on baisse d'un cran. Et alors même au niveau de la narration, il y a ce côté à la fois donc la femme, et puis en même temps il réussit aussi à traduire le côté un peu négatif de cet aspect-là. Donc il y a beaucoup de naissances, hein. Donc il y a le côté maternité qui s'allume, mais on voit aussi qu'il y a un côté un peu déterminisme social au niveau de la femme qui reste à ce statut de mère. Donc l'idée est intéressante,
Non, mais est-ce que c'est critiqué? Parce que moi, j'étais même pas certain que ce soit critiqué à la
mais
fin
c'est
du
pas
film.
Critiqué,
on nous dit, voilà, cette génération a eu maintenant 250 descendants, on est dans la modernité. Et je me suis dit, oui, c'est la jeunesse de la Manif pour tous, quoi, finalement, qu'on voit dans le film. Et heureusement que c'est Trananoum qui signe le film pour justement tempérer cette impression.
Oui, parce que moi, j'ai eu ce sentiment-là, mais c'est vrai que c'est pas forcément exprimé non plus. Et puis, l'autre souci, c'est que, donc, au fur et à mesure qu'on se désintéresse, donc, que ce soit à la fois de ce que ça raconte, parce que c'est désincarné à travers le changement de la bascule des générations et donc d'acteurs, et ça joue aussi sur l'esthétique, parce qu'au début, voilà, c'est flamboyant, il y a de la baie d'image, il y a vraiment moins de bouts de porcelaine qui brillent, et au fur et à mesure, bah, vraiment, on a un sentiment de publicitaire qui tourne à vide, ou de pub pour parfum, qui finit par rendre ça un petit peu creux. Quoi.
J'ai juste une question, vu qu'on est le seul site peut-être à avoir fait une critique positive du film, est-ce que vous avez réussi à avoir l'interview de notre réalisateur justement, parce que il doit y avoir de la place du coup.
Non, j'espère que Trananoum est au Vietnam et filme un nouveau film au Vietnam ou au Japon. Mais en tout cas, il va avoir du mal à trouver des financements en France. J'en ai peur pour lui. Mais il y a cette esthétique justement qui peut rappeler une critique publicitaire. Il y a notamment une scène qui est presque parodique par rapport à ça, quand une mère parle de la peau de ses enfants, et on peut presque voir le côté...
Oui, mais quand c'est le terrain sur l'équipe, vous dites pas que c'est publicitaire.
Non, pas du tout. Moi, je suis pas non plus un défenseur de Terrence Malick. Et le problème dans cette hypertrophie de l'esthétique et du style, donc sur le ce qui pourrait être, je sais pas, alors même pas un récit, mais en tout cas une vision du monde, c'est que le style, à la base, doit être une vision du monde. Et là, le film me dit rien, en fait, sur le monde. Il me montre juste des moments de vie complètement déréalisés.
Le film est sur une esthétique de l'éphémère, justement. Et c'est montré à travers, justement, le fait qu'on suive justement, le film se base sur la vie du personnage d'Audrey Tautou. C'est pour ça qu'il ressent en scène, de sa naissance à sa mort. Et c'est justement pour ça. C'est juste un film comme une chronique japonaise de Kawase ou de... des choses comme ça. Si.
Mais elle a une vie qui est vide. Elle a une vie qui est vide, à part l'enfantement et la mort de ses enfants.
Mais justement,
voilà, elle exprime la naissance et la mort à travers la génération.
Et que c'est ça, justement, la vie. C'est l'amour. Et justement, il essaye de te faire ressentir ce sentiment sur une génération de personnes et de familles bourgeoises. Parce que justement, comme ils vivent pas de grands drames, où ils vivent les drames hors champ, justement, t'es concentré que sur les rapports justement de mère-enfant, de mari-femme, etc. Et c'est justement, on se rapprochait du plus petit de l'intime des relations dans les instants, qu'il essaye de créer ce sentiment de nostalgie de l'éphémère, comme ça, qu'on vit tous, en fait, finalement.
En fait, moi, j'ai pensé aussi, il y a un autre réalisateur qui, parfois, a pu être un peu descendu pour le côté très maniéré, le côté très flamboyant.
Je me demande de qui tu parles.
Genre David Lean, où il y a des scènes où vraiment il y va, j'ai pas de main morte, dans Docteur Jivago, il y a les scènes des jonquilles, où ça pourrait être totalement ridicule, mais parce que c'est plus incarné, il y a une histoire d'amour, il y a quelque chose derrière, où la scène passe toute seule, ou dans La fille de Ryan, où il y a une scène d'amour en pleine forêt, où vraiment c'est une forêt totalement irréaliste, il y a les bourgeons qui poussent enfin à côté.
Mais cette question d'incarnation,
parce que le problème, c'est pas en soi le film, c'est le public qui reçoit le film. Et nous, on a trop été éduqués au cinéma hollywoodien, justement. Et on s'attend même inconsciemment à ce qui est les codes du cinéma hollywoodien, donc des personnages.
Même en capturant des moments épars, et pour eux. Pourrait ressentir.
Non, justement, il fait une proposition de se couper totalement
personne
de ce cinéma.
Personne n'a parlé de Malick, évidemment. Parce que,
c'est évident. Mais
moi qui me suis.
Un petit peu bon. Mais on adorait Malick.
Mais moi qui ne suis pas un grand fan de Night of Cups, je trouve certaines scènes dans la manière dont tu parles, justement, cette manière un peu esthétique et non narrative, éloignée des codes hollywoodiens, je trouve qu'il y arrive à certains moments, pas tout le temps, mais beaucoup plus que dans La Merveille, déjà, parce que La Merveille, c'est vraiment une plaie absolue. Mais Night of Cups, je trouve qu'il y a des moments forts où il arrive à faire ça. J'ai pas vu Éternité, mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, Oui, je vais aller le voir quand même.
Mais ça reste narratif, puisqu'il y a une voix off qui donc explique la narration et qui est chronologique en plus.
La voix justement ne sert qu'à garder un certain fil, ça, parce que sinon... Justement, on serait perdu en quelque sorte dans l'océan d'images.
Mais c'est pas le but
mais non, justement, c'est parce que, comme je l'ai dit, on suit la vie d'Audrey Tautou, et justement, et à partir de là, on se rattache à cette vie, et justement, la voix de sa femme qui lit les passages du roman, c'est pour des fois porter des balises comme ça, pour pas qu'on vive le truc comme si on était dans un musée, justement, ou dans une installation, justement.
En plus, quelqu'un d'autre qui aime bien Nicolas Rung. C'est typiquement le genre de cinéma où il n'y a pas de fil, qui peut ne pas avoir de fil, mais ça marche.
Oui, mais là aussi, ça marche.
La randonnée, c'est des gens qui... J'ai les deux enfants qui marchent dans le désert 2 heures, il ne se passe rien. Et juste par l'image, il arrive à vraiment amener une implication que là, je ne trouve pas. Quoi.
En tout cas,
c'est peut-être trop maniéré pour...
Vous pouvez lire la critique de Kefren d'Éternité, la seule critique française et internationale positive du film de Tranaloumia. Donc voilà. Après, la question, justement, quand on veut élargir un peu le débat, c'est vrai qu'il y a une vraie singularité du cinéma de Tranaloumia, qu'on retrouve qu'il fasse des films au Vietnam ou au Japon. Par exemple, son dernier, c'était La Balade de l'Impossible. Au Japon, et donc on retrouve sa patte dans un cinéma français. Est-ce que justement cette singularité d'auteur, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les films qu'on a vus sur cette rentrée? Et j'ai envie, moi, de parler surtout d'un des films les plus importants de l'année, à mon sens, qui est Resté vertical, d'Alain Guiraudy, qui là est une vraie proposition esthétique qui sort complètement de tout ce qu'on peut voir et de tous les sentiers battus. Elias,
Moi j'ai bien en parler, mais que du film, parce que je connais pas assez bien Guiraudy pour pouvoir parler de son style, etc. Bon, moi voilà, c'est mon premier Guiraudy. Je m'attendais à rien.
Il a fallu une cellule psychologique à la fin.
Je m'attendais à rien. J'avais pas entendu parler de Le Premier du Lac, c'est ouais, c'est un peu trash, etc. Enfin, c'est trash, machin. Et j'arrive devant Vertical et je me dis, bon, ok, ça commence pas mal. Et puis en fait, je suis très content parce que j'ai toujours été. Enfin, on va dire que c'est. Des erreurs de jeunesse très snob du cinéma français. Dans le sens que quand un film français sort, j'avais pas le voir, etc. J'ai raté plein de films qui maintenant je me mords les doigts de pas avoir vu en salle quand j'avais 16 ans, 15 ans, etc. Et là, cette année, le cinéma français en général, je me prends vraiment claque sur claque. C'est la première année où, dans mon top de l'année, j'ai presque autant de films français que de films asiatiques. Et beaucoup plus de films asiatiques et français que de films américains ou étrangers à ça. Du coup, là, on parle de Guiraudy, du coup, je vais rester là-dessus, mais que ce soit Nocturama ou Divine ou le film Guiraudy, ou même au début de l'année, des films comme Saint-Amour, les Pénées Cavernes, je trouve qu'on a un très bon cru 2016 du cinéma français.
Héroven.
Et Héroven. Qui d'ailleurs va présenter la France.
Dans le même cadre de Tranaloum, quelqu'un qui est un peu extérieur. Et, oui,
et il y a Héroven, et après, elle reste.
Olivier, peut-être sur le Guiraudy.
Ah oui, j'aime beaucoup le Guiraudy. Je trouve que c'est un film qui incarne magnifiquement son titre. C'est ce qui m'a frappé. C'est un film qui est d'une liberté de ton total. J'avais été un peu, j'avais pas été totalement convaincu par L'Inconnu du Lac.
Ah oui.
Là, j'avoue que le film.
Mais il avait fait beaucoup mieux avant. Ouais. L'Inconnu du Lac.
Oui, bien sûr. Le film m'a ému en plus. Rester vertical, je trouve que c'est un film qui va dans une totale liberté de ton, il va où il veut, il est à la fois dans une forme de réalisme et dans une forme de presque de réalisme fantastique. Il est symbolique sans être démonstratif. Non, le film vraiment. Il est totalement singulier, quoi, du début jusqu'à la fin. Et effectivement, le dernier acte est sublime.
Nicolas.
Personnellement, moi, je préfère vraiment les 40 dernières minutes à la première heure. Parce que finalement, la première heure, c'est vraiment une chronique, au final, de ce qui s'étale sur plusieurs années, qui va avec des ellipses qui sont pas marquées, du coup.
Avec des ellipses très osées.
Très osées.
Au niveau du narratif.
Oui, au niveau du montage aussi, pareil. Enfin, c'est assez c'est intéressant. Après, je trouve que c'est parfois, il se passe pas... C'est pas forcément bien de dire ça, mais il se passe pas grand chose sur certaines périodes de la vie de cet auteur. Et il y a des moments où je me suis un peu ennuyé. Mais dès que ça commence vraiment à partir un peu, à vraiment à partir dans une espèce de truc un peu onirique, un peu exubérant, un peu un peu tout, quoi. Là, c'est vraiment passionnant. Et moi, justement, qui n'avais pas trop aimé l'Inconnu du lac parce que je trouvais que c'était un peu gratuit par moment. Là, je trouve que c'est pas du tout gratuit, quoi. Ça apporte toujours quelque chose. Et puis, il y a des séquences drôleries absolues. Enfin, la séquence où il se perd dans l'espèce de. Tu sais, avec la médecin des bois, là, qui lui met des pièces de feuilles et tout. Et puis, son boss scénariste qui arrive et qui l'appelle en barque et tout. Et lui, il est caché dans le flotte. Mais j'étais mort de rire. Et
je pensais. Son scénario.
Hein?
Qui lui réclame donc son scénario.
Oui, qui lui réclame son scénario.
Il y a une espèce de féerie, je trouve, parfois dans le film.
Et puis, voilà. Mais cette séquence dans les bois, avec une espèce de cabane. Cabane dans la forêt, ça fait très Miyazaki d'ailleurs.
Des séquences étranges, quand il prend le bébé pour le donner au loup, pour attirer
oui, voilà,
le
chien. Non, mais il y a une espèce de côté. Il y a un côté conte et la fin, ça ressemble vraiment à la fin d'un conte en fait.
Lila
Oui, alors moi j'étais dans le même cas qu'Elias, c'était le premier Guiraudy que je voyais, puisque quand la Colue du Lac était sortie, j'avais eu des échos assez négatifs, donc je n'étais pas allée le voir. Là, ça a été la même chose avec Rester Vertical, et en particulier, on m'avait décrit deux scènes qui sont assez marquantes dans le film, bon, que je ne vais pas détailler bien sûr pour éviter de révéler les ressorts, mais
au cinéma français on peut spoiler les moments qu'ils ont sortis il y a quelques semaines.
C'est vrai. Mais bon, voilà, effectivement, la scène d'accouchement et la scène, disons, d'euthanasie, qu'on m'avait décrit en des termes assez horribles, comme quoi c'était de la provocation, c'était gratuit, c'était ignoble. Du coup, j'avais peu envie d'aller voir le film, et puis finalement, je m'y suis laissé entraîner. Et ça a été une excellente surprise, puisque oui, ces scènes sont présentes dans le film, mais elles sont traitées d'une manière qui est presque tendre. Alors bon, la scène de l'accouchement, c'est pas très joli à regarder, mais ma foi, c'est la réalité, et c'est comme ça, et ça fait même du bien de voir ça. Enfin, c'est quelque chose qui est aussi décomplexant par rapport à cette idéalisation qu'est l'accouchement, alors que dans les faits, c'est quand même une des pires choses, je pense, qu'on puisse voir. Je trouve qu'en tant que femme, justement, je trouve que c'est bien de montrer ça parce que justement, c'est pas du tout féministe d'idéaliser cet acte d'enfantement qui, dans les faits, est quand même franchement pas très ragoûtant. Voilà, et puis la fameuse scène d'euthanasie, bon, bah, effectivement, quand on décrit ça sur le papier, c'est comme dans le film lui-même, le met un peu en abîme, hein, avec les grands titres des journaux qu'on retrouve.
Le journal de le...
Yes.
Voilà.
Je peux le dire ?
Ah oui.
Oh. Attends,
ah bah non ! Tu nous déçois.
Ah non, il euthanasie le vieux après avoir sodomisé sous les yeux de son bébé. Voilà, je suis content, je l'ai dit dans le podcast, je suis content, tu peux reprendre le livre.
Ouais. Bien voilà, justement, c'est un petit peu cette sorte d'ironie par rapport effectivement à la perception qu'on a spontanément de ce genre de situation, voilà, qui est celle que j'ai eue quand on m'a raconté la scène, alors qu'en vérité c'est une scène qui est douce, alors pour le coup tendre, en y réfléchissant ça paraît un petit peu dégueulasse de qualifier cette scène de tendre, mais malgré tout il y a quelque chose de très aérien, très...
C'est un acte qui est magnifique dans le film en plus. C'est une scène qui est un peu bouleversante dans ce que ça signifie, quoi. Et c'est qui évoque justement la jonction vie-mort, quoi, de manière assez géniale, quoi.
Alors ça, c'est une question à partir de ces deux films qu'on a vu, Éternité et Rester Vertical, même si le lien est un peu difficile à trouver.
C'est la proposition esthétique.
Mais finalement, je vais faire un lien avec ce qu'on a dit sur l'étrange festival. Est-ce que, à partir de ces films et d'autres films qu'on a vus dans le cinéma français, il peut encore y avoir de l'étrange dans le cinéma français, et à partir des films qu'on a pu voir cette année?
Bah pour le coup, avec Guiraudy, oui.
Oui, Guiraudy, totalement.
Avec Guiraudy.
Guiraudy aurait pu être à l'étrange, hein, totalement. Mmh. Enfin, j'aurais...
Frédéric, ton nom. Vas-y,
continue. Non, en tout cas, est-ce qu'il y a une certaine liberté qu'on peut encore trouver maintenant dans le cinéma français?
Oui, mais Grave, c'en est l'exemple, justement, parce que c'est le premier film d'une jeune réalisatrice, et elle fait un film un peu fou, et justement, le fait qu'on sache pas ce qu'elle raconte vraiment dans le film montre qu'elle a quand même une certaine liberté, parce que quand on parle de Grave, enfin le film sort en 2017 je crois, on peut autant dire que c'est un film qui se moque des végétariens, comme on peut dire que c'est un film pro-végétarien. En fait on sait pas trop vraiment où est-ce tout, et le film a un propos très étrange en fait. dans ce sens, et c'est le renouveau du cinéma français, donc oui, il peut encore être étrange.
Alors maintenant, je vais poser la question à l'envers. Quand on voit un cinéaste comme François Ozon, qui a commencé dans les marges avec un film comme Sitcom, qui s'attaquait assez violemment à la fois à la société française, à la fois au code du cinéma français à l'époque, et qui fait maintenant un film comme Franz, est-ce qu'on n'a pas aussi perdu certains cinéastes dans
Ozon,
ce passage
Ozon a toujours voulu, Justin.
En fait, Ozon, il a toujours navigué entre les deux, hein, parce qu'avant de faire Franz, il avait déjà fait une tentative de romanesque un peu internationale avec Angel, et malgré tout, il réussit à insérer des côtés un peu plus, enfin peut-être moins dans Franz, qui est plus classique, mais qui est quand même très intéressant, mais Angel, c'est un film en costume comme on en a rarement vu, il y a quand même déjà l'héroïne est quand même assez spéciale. Visuellement, on dirait une grosse boîte Quality Street avec des couleurs, tape à l'œil partout. Enfin, il y a quand même une proposition, malgré tout, même quand il essaie de faire ce genre de cinéma, quoi. Puis même, il navigue entre les deux, dans un cinéma un peu plus... même 5x2, qui pourrait être un film un peu plus classique. Puis il y a juste la narration qui bouleverse un peu le côté tradition, film à la Claude Sautet ou à la, ou autre. Juste, il réussit toujours à apporter sa touche qui le singularise. Quoi.
Mais justement, le cinéma de Ozon, c'est justement, on peut le résumer, justement ses propres références et ses influences, c'est toujours entre Douglas Sirk et Fassbinder. Et en fait, il a fait juste avant Une Nouvelle Amie, qui est un film purement Fassbinderien, si on peut dire. Qui parle de sexualité.
Marco Potiche, c'est quasi un remake d'un Douglas Sirk, tout ce que le ciel permet. C'est quasiment un remake.
Mais non, c'est pas. Pardon. Et si on n'aime pas Ozon, est-ce que c'est bien Franz quand même?
Donc, bah si, on m'a dit, c'est marrant, on m'a déjà posé la question cette semaine. Oui, ça peut, au contraire, c'est un film que je conseillerais à quelqu'un qui n'aime pas Ozon.
Ma Nouvelle Amie, là, c'était une catastrophe.
Non, c'était vraiment, c'est quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui n'aime pas Ozon, c'est une bonne
porte. J'ai pas compris pourquoi ce film a été tellement porté au nez en fait.
Parce que t'avais le mariage pour tous et tout ça en même temps.
Alors que c'est rempli de clichetons à tous les niveaux, c'est horrible ce film.
Enfin, ouais. C'est pas rempli de clichetons.
Parce qu'il y avait un contexte qui faisait que.
Mais Ozon, il connaît mieux ce monde de l'acteur, comment tu peux dire que
c'est encore pire. Mais en tout cas, si on n'aime pas Wood Franz, clairement, il y a un côté à la fois romanesque et anti-romanesque, c'est-à-dire c'est romanesque dans le visuel, dans le côté flamboyant, et anti-romanesque parce que les romances, enfin, je
sais pas comment les gens. C'est une pire bouse de l'histoire française, une des pires bouses de l'histoire française.
C'est pas son meilleur secteur. Mais il y a un côté romanesque dans le côté flamboyant visuellement, et anti-romanesque, où on peut spoiler un peu, vu que le film est sorti. Donc, dans le déroulement de l'histoire, où on s'attend à certaines romances qui pourraient se développer et s'étuer dans l'œuf systématiquement pour plutôt vanter le côté individuel du personnage féminin. Donc, c'est entre les deux, et puis c'est quand même très intéressant. Et puis, il y a le côté entre-deux-guerres aussi, contexte les rapports franco-allemands à la fin de la Première Guerre mondiale aussi. Donc, il y a tout un contexte, et puis un côté féministe... qu'on retrouve dans ses films précédents.
Il y a une belle idée de mise en scène et d'esthétique. Noir et blanc et la couleur,
qui n'est pas gratuit du tout, qui entre le mensonge et la vérité, il y a un côté où la couleur réapparaît, disparaît. Puis il y a une belle révélation au niveau de l'actrice Paula Beer. On la reverra.
Il y a quelques années, on aurait parlé de cinéma du milieu pour François Ozon. Maintenant, c'est une place qui est aussi occupée par Justine Trier. Dont Victoria a fait une sorte d'unanimité critique. Je crois qu'Olivier, tu t'es un peu inscrit en faux par rapport à cette unanimité.
Oui, non pas pour casser le film, que je trouve très sympathique, vraiment une comédie très chouette, hein, mais par rapport au consensus critique et à l'enthousiasme général qui en font un grand film, je trouve que c'est franchement disproportionné. Je trouve même que ça nuirait même au film en lui-même pour l'apprécier. Le film, c'est un véritable show Virginie Efira qui est vraiment fabuleuse.
Elle qui est en couverture d'ailleurs.
Oui, il est alerte, il est frais. C'est plus pour moi une succession de scénettes drôles qu'un véritable film au fil narratif. Moi, je reproche juste peut-être au film d'être un peu déséquilibré dans son désir d'être à la fois délirant et d'être juste psychologiquement, ce qui fait qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Mmh. Mais le film est agréable. Par contre, le consensus critique qui compare à Douglas Sirk et à Billy Wilder, je crois que ça, je trouve que ça relève du
délire. Dès qu'il y a une héroïne un peu forte, c'est comparé à Douglas Sirk, c'est normal. Mais sinon, moi, je suis assez d'accord avec toi. En fait, j'ai beaucoup aimé le film. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, le côté scénette, humoristique, le fait qu'il n'y ait pas forcément un film narratif, et le fait que ce ne soit pas un grand film. Mais en fait, ce film, en fait, Justine Triet, j'ai l'impression que c'est la petite prodige du cinéma, nouvelle petite prodige du cinéma français qu'il faut absolument mettre sur un piédestal, quoi. Alors j'aime bien ces deux premiers films, mais j'ai l'impression qu'on la monte très haut, trop vite. Et j'espère pour elle qu'elle a la tête sur les épaules et qu'elle ne va pas trop... tenir compte, quoi.
Du coup, c'est intéressant ce que vous dites de l'appréciation du film par rapport justement aux échos, parce que moi, les premiers avis que j'ai eu par rapport au film étaient pour le coup très négatifs.
Ah bon, à Cannes pourtant.
Non, mais justement, c'était pas des critiques de la presse, mais dans mon entourage.
Ouais. Donc, que des choses négatives
dans
l'entourage, en fait.
Mais je l'ai remarqué, je ne les écoute plus. Heureusement. Mais non, effectivement, on m'avait dit, hein, on ne va pas voir Victoria, c'est absolument... Alors que, en fin de compte, quand je l'ai vu, du coup, j'ai été agréablement surprise. Ce qui était tout l'inverse pour moi de Tony Erdmann, où justement, je n'ai pas détesté le film,
mais qui a été très mal vendu, Tony Erdmann.
Oui, c'est juste qu'il a été mal vendu.
Le Black Edouard, quand tu te retrouves devant.
Voilà, c'est drôle, mais c'est un film au final profondément dramatique.
C'est ça. En fait, j'ai l'impression, alors on nous parlait, justement, tu en parlais sur cette ambivalence entre le côté psychologique et le côté humoristique. Finalement, j'ai l'impression que Victoria est un petit peu le film qu'on nous avait vendu avec Tony Erdmann, qui est un film avec un petit peu en fond sur un portrait de femme, mais drôle. Tony Erdmann n'était pas particulièrement drôle. Victoria, en revanche, dans ce créneau-là, sans être magnifique, en fait, réussit plutôt bien.
En fait, Victoria, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont un problème avec l'absurdité du film. C'est-à-dire qu'il incorpore des éléments absurdes dans un film de procès, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font un moment, ils font interroger des animaux, un chien et un singe comme témoins. Et apparemment, c'est ce qui est vraiment passé dans certains procès.
Enfin, je crois que le chien, ils l'ont inventé.
Le chien, mais pas le singe. Ouais.
Il me semble que le chien...
Non, c'est le chien, n'a pas été inventé.
J'ai vu que c'était inventé quand même.
Non, le chien, c'est pas inventé.
Ah, c'est le singe qui a inventé.
Mais le chien, effectivement, la phrase...
Ça va loin quand même. L'appréciation réaliste du film.
Apparemment, la phrase sur laquelle le dalmatien était considéré comme un des chiens les moins intelligents et que, du coup, c'était certainement pas un dalmatien qu'il fallait demander, apparemment, cette phrase a vraiment été prononcée lors d'un procès. C'est dire...
Mais le côté absurde est un des trucs qui
fonctionne le mieux. Mais il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout à ça. Peut-être pour ça qu'il y a des critiques négatives. C'est pareil dans ma famille. Enfin, ma mère et ma tante, elles ont été voir le film. Oh, c'est complètement absurde ce truc. C'est nul.
Là, c'est un peu trop personnel. Voilà, c'est trop personnel. On va passer peut-être à Nocturama, qui était un autre événement de la rentrée du film de Bertrand Bonello, qui lui aussi a pas mal divisé. Qu'est-ce que
on peut faire un débat d'une heure. Hein.
On va faire un débat de 3 minutes.
Je parle bien du terrorisme.
Et serait-ce de l'anarchisme?
Justin.
Moi, je trouve la première partie vraiment fonctionne vraiment très très bien, assez captivante. On voit donc un groupe de jeunes qui semblent préparer un plan un peu nébuleux, obscur, qui se rencontrent, qui se croisent dans le métro, dans les rues de Paris. Ça, j'ai trouvé ça très bien, surtout avec pas mal de recherches formelles. Le problème, c'est une fois que... là aussi le film est sorti, on peut dire l'objectif c'est des attentats donc sur différents symboles, que ce soit de la République, des symboles de pouvoir, de corruption et autres, donc il y a des différents attentats qui sont réalisés. Après, les jeunes vont se réfugier dans un centre commercial. Alors, l'idée intéressante de mettre en contradiction le supposé engagement des jeunes à travers leurs actes, et puis on voit la vacuité quand il s'agit de matérialisme le plus superficiel, une fois qu'ils sont dans le centre commercial. Alors, c'est intéressant sur le papier. Dans la pratique, je trouve que ça ne fonctionne pas, ça tourne à vide. Parce que le problème, j'ai l'impression que c'est... Le scénario a été écrit avant les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Mais malgré tout, il y a un problème à cheval entre le côté... lié à l'actualité, parce que c'est un groupe de jeunes multi-ethniques, quoi. Il y a des jeunes de grandes écoles, il y a des banlieusards, Donc on pourrait dire que ça peut être des cibles de jeunes qui pourraient tomber dans Daesh, vu qu'aujourd'hui on a de tous les milieux qui peuvent se faire embrigader. Et en fait, donc c'est dépolitisé tout en l'étant dans certains choix narratifs, et je trouve que ça fonctionne pas en fait, c'est déséquilibré.
Est-ce que c'est le retour du vide politique du cinéma
pour ça ? On l'interrogera avec du cinéma pour ça, Geoffrey. Elias ?
En fait, moi je trouve justement que je pense pas en fait que ce soit un film, justement. Je pense. En fait, moi j'arrive pas à voir le film comme étant un film politique. Je sais que c'en est un et qu'il va en être un. Mais en le voyant, j'ai fait relativement abstraction de ça, sauf dans la toute dernière partie du film, qui est pour moi une des parties les plus intenses, j'y reviendrai. Mais en fait, pour moi, c'est surtout une étude de cas, une étude de personnages et une étude de la jeunesse française actuelle, livrée à elle-même, qui est gavée de trucs capitalistes, qui est gavée de chansons pop sirupeuses. Willow Smith qui est utilisé dedans, mais autour, à côté de Blondie et de...
Chief Keef.
Peut-être Blondie, de Chief Keef et d'autres meilleurs artistes.
PL.
et je trouve en fait que autant pour l'inverse de Justin, je trouve la première partie au final marche pas si bien que ça à mon goût. Le début marche bien, mais après je trouve ça assez redondant. On vient dans une espèce de déconstruction en flashback pas annoncé, etc., qui perd assez le spectateur. Et
justement, ça qui est bien,
c'est ça qui est bien. Mais moi j'ai pas accroché à la façon dont ça a été mis en scène et mis en temporalité. Par contre, une fois arrivé dans la Samaritaine, je trouve le résultat vachement bien. Les personnages, il y a une super alchimie entre eux, je trouve, quasi. Enfin, entre le groupe, une alchimie, mais qui à la fois semble forcée, mais parce que c'est forcé aussi en même. Enfin, ils ont tous des convictions qu'on ne sait pas, ce qui aussi rend la fin important. En fait, c'est juste un ras-le-bol général de la jeunesse, et tu vois, c'est de jeunesse qu'on a marre, qu'on a ras-le-bol pour des raisons que peut-être même eux ne savent pas, qui sont jamais dites dans le film. Pourquoi est-ce qu'ils font ça au final ? Parce que ça devait arriver, comme dit Adèle Haenel quand elle sort et croise une surnom qui fait ouais, ça devait arriver. À part ça, on sait pas plus, et pour moi, c'est juste ça en fait.
C'est elle en fait qui dit ça.
Voilà, c'est elle qui dit ça. Et je trouve en fait ce film marche très bien en tant que juste étude de la jeunesse actuelle, de la jeunesse des différents quartiers, de la jeunesse moderne dans la dernière partie, et ce qu'il ferait s'il s'est livré lui-même dans un endroit où vous avez accès à tout. Et je vais juste finir avant de passer la parole pour dire que par contre. C'est totalement, pour moi, les 15 dernières minutes sont totalement un autre film. Quand les policiers arrivent dans le...
Oui, moi, je trouve ça glaçant, en fait.
Et cette scène est glaçante, totalement, renverse les rôles. C'est vraiment le terroriste qui devient, pas opprimé, mais qui devient chassé, qui peut rien faire sans se faire tirer dessus. On se croirait dans une sorte... Je sais pas,
en
comment...
Fait,
dans...
En fait, cette séquence, il y a plusieurs... Enfin, j'ai entendu des centaines d'interprétations, beaucoup d'interprétations sur cette séquence, complètement différentes. Et moi, je l'interprète en fait comme une espèce de déni de dialogue, en fait, de espèce de problème aujourd'hui, c'est que le terrorisme, entre guillemets, même l'anarchisme, c'est quelque chose qu'il faut prévenir par le dialogue. Et on est dans un espèce de système où il y a une escalade de violence et qui fait que le dialogue n'existe plus et que c'est forcément. Voilà, une fois que tu es lancé dans le truc, c'est coup pour coup. Il n'y a pas de moment où...
Juste à ce que je disais avant, c'est le fait qu'on ne sache pas pourquoi ils font ça. Et là, pile quand les filles arrivent, on pourrait dire expliquer pourquoi ils font ça. Au final, non. Plutôt que dire pourquoi ils font ça, ils sont tous tirés dessus en Paris, ils sont abattus comme des animaux, quoi.
Moi, je veux juste dire que c'est réaliste. Hein, c'est dans la réalité, c'est ce qui arrive. Quand les mecs ils trouvent les terroristes, ils les shootent et c'est fini.
Rien de nouveau depuis Dostoïevski. Hein.
Bah oui.
En plus. Bah oui.
Justin.
Oui, alors il y a un truc où j'étais pas d'accord, c'est dans le côté reflet de la jeunesse actuelle, parce qu'en fait, c'est un propos qu'il y a dans le film qu'on trouve dans d'autres œuvres d'avant mieux exploitées. Alors il y a un film qui va sortir, je pense en fin d'année ou en 2017, adapté d'un bouquin de Philip Ropes qui s'appelle Pastorale américaine. Et alors, petit rapidement, c'est l'histoire d'une fille, d'un émigrant juif qui a réussi aux États-Unis, qui est vraiment le symbole de la réussite du rêve américain capitaliste, qui va s'engager dans un groupe d'anarchistes, pseudo-anarchistes, ça se passe dans les années 70, et donc qui rejette tout l'héritage de son père, le point de départ a fait exploser une poste, pose une bombe dans une poste et a fait exploser, elle se retrouve fugitive. Et je trouve là, c'est plus incarné, et c'est le même propos que Nocturama, en osant s'ancrer dans une réalité, et ça fonctionne mieux, enfin, dans le livre, et puis on verra dans le film, mais je trouve que sur ce postulat, c'est plus intéressant que Nocturama, qui est le cul entre deux chaises, qui se veut un reflet d'aujourd'hui, mais qui n'est pas neuf dans le propos, finalement.
Mais en fait, faut le remettre aussi dans le contexte. T'en as parlé tout à l'heure, désolé.
Nicolas.
Mais il a été écrit avant les attentats de Charlie Hebdo. Et c'est vrai qu'il s'est passé énormément de trucs depuis, quoi.
Mais il aurait dû.
Bah oui, mais c'est le truc. Il faut le remettre. Il faut aussi le remettre dans le contexte d'avant, tu vois. Ouais. C'est de voir le film d'avant. L'état d'avant, en fait. Au final, c'est presque un. Ouais, ça montre un peu l'état avant tout ça, quoi. Et déjà, c'était déjà dans un. On était dans un moment un peu critique. Et le fait qu'il s'est passé tout ça ensuite, ça montre à quel jusqu'où on est allé, quoi.
Bah justement, ce que je trouve assez glaçant dans le film, c'est que pour moi, ce qu'il exprime clairement, et c'est rendu explicite justement dans le passage avec Adèle. Merci. C'est un pressentiment. C'est le pressentiment qu'il faut que quelque chose va se passer, que cette société, elle se sclérose quelque peu, il faut la faire éclater. Et puis, effectivement, il s'avère qu'entre le moment où le film a été écrit et le moment où il a finalement été achevé et porté à l'écran, il s'est passé ce qui s'est passé. Et justement, finalement, c'est cette temporalité qui est assez terrifiante, qui est de se dire, ce film a ce sentiment que quelque chose va arriver et ce quelque chose s'est effectivement produit. Maintenant, le film est très abstrait, dans les motifs, dans les...
Oui, mais c'est un sentiment que,
qui... Donc voilà, c'est vraiment cette sorte de... perception confuse, mais que quelque chose va arriver, et c'est ce qui le rend puissant, et c'est ce qui fait que c'est intéressant, justement, qu'on ne sache pratiquement rien sur les personnages ou leurs motifs.
Olivier, pour conclure sur
moi, j'adore vraiment totalement le film, mais je trouve que c'est un film qui est moins politique qu'un film de pure inquiétude, en fait, et un film d'interrogation constante. Je pense qu'on en reparlera peut-être mieux dans 15 ans, parce que là, on est vraiment toujours à chaud par rapport aux événements, et je pense que le film aura une meilleure signification dans 15 ans. Il évoque. C'est une vision presque plus métaphysique que politique. C'est qu'est-ce qu'on fait dans une. Qu'est-ce que crée une société de consommation actuellement et qu'est-ce que ça peut créer comme rébellion, comme désespoir de rébellion et comme désespoir qui peut être également un désespoir vide. Et toute cette question du vide, c'est-à-dire, moi, ils ne sont pas antipathiques pour moi, ces personnages. Le vide, c'est quelque chose qui les ronge. Ils sont d'ailleurs pas mal, à part 2-3, ils sont pas mal obsédés à l'idée de qu'il y ait eu des morts. Je pense qu'il faut vraiment, réussir à voir le film en se dégageant paradoxalement des événements actuels. Je pense que toute la valeur du film est ailleurs. Et puis, quand on a une putain de mise en scène comme ça, faut quand même la défendre, quoi. C'est quand même hyper impressionnant, quoi. Moi, j'ai été. C'est vrai que le dernier acte, il est. Enfin, moi, il m'a complètement happé. J'étais scotché, quoi. C'était.
C'est pareil. Je tremblais un peu.
Au pire, vous pouvez toujours lire le panorama de Bret Easton.
Très bien. Bon bah. Donc allez voir quand même des films français en plus de certains films asiatiques dont on vous parle. On aurait pu vous parler de Divine. Mais on en a déjà pas mal parlé, et en plus Samir n'est pas là ni Jean-Michel Frodon, donc on en parlera une autre fois. On aurait pu vous parler de Juste à la fin du monde de Xavier Dolan, mais on n'a pas vraiment envie. Et en plus, il y a le festival du film coréen à Paris qui arrive, le FCB.